Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, ceux et celles qui nous ont rejoints en cours de culte. Nous vous bénissons parmi nous et nous espérons que vous passez des moments inoubliables. Ce matin, nous sommes toujours dans ce thème d'ensemble, vous voyez, c'est marqué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait ensemble et marqué ensemble sur un mur ce matin? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Ah ouais, pourtant vous entrez par là, c'est juste en face. Et tu vois, Pascal, ton beau travail que tu as fait, il n'y a personne qui remarque. Hein? En tout cas, merci Pascal, hein, la déco, pour tout. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais prêcher sur le canapé, du moins sur le fauteuil, je ne lui ai pas demandé, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire ce matin. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai une pensée dans mon cœur pendant la louange. J'aimerais peut-être inviter quelqu'un, peut-être plusieurs. Vous avez là des échéances médicales, des échéances administratives de tous ordres. J'aimerais simplement vous inviter à vous lever à votre place. Et je vais prier avant que nous ouvrions la parole. Simplement, vous avez une échéance médicale, une échéance administrative. Vous avez un rendez-vous important. Je vous invite à vous lever à votre place. Si vous voulez bien, hein, c'est vraiment... Voilà. Père, je bénis ton nom. Pour ta fidélité, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui prend soin de ses enfants. Et ce matin encore, tu as voulu, Seigneur, t'intéresser particulièrement à tes enfants, à ces bien-aimés, qui ont là une échéance, peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Toi, tu connais chaque cœur, tu connais chaque situation. C'est pourquoi, Père, je veux seulement te rendre la pensée que tu m'as mise dans le cœur. Œuvre maintenant dans ces situations. Fais ton œuvre, Seigneur. Que tu sois avec chacun, que tu sois avec chacune. Que tu conduises chacun et chacune. Que leur cœur soit ouvert à ce que tu vas leur donner. Qu'ils puissent agir en fonction de ce que tu leur diras. Qu'ils puissent s'attacher à ce que toi tu vas leur dire, non pas à ce qu'ils ont décidé eux-mêmes, mais que toi, Seigneur, tu aies toute la place dans chacun de leurs cœurs pour agir, oui, fidèlement dans chacune des situations. Je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta fidélité qui est abondante dans nos vies, pour ton amour qui est sans faille, pour ta bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Oh Seigneur, merci d'agir puissamment maintenant dans chacune de ces situations. Tu les conduis, Seigneur. Tu les devances. Et tu pourvois, Seigneur, parce que tu es fidèle en toutes choses. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ce soit pour des problèmes financiers, pour des problèmes administratifs, pour des problèmes de santé, des problèmes de quelconque encore. Seigneur, j'invoque le nom de Jésus maintenant, ce matin. Et que ton nom soit tout puissant dans chacune des situations. Parce que tu es Dieu et tu es glorifié. Louange à toi. Honneur à toi, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Merci, mon Dieu. Louange à toi. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Voilà. Merci. Je vous invite à prendre place. Là, comme je disais, nous sommes toujours dans le thème d'ensemble et nous avons voulu décliner ce thème sous la forme de l'Église parce que c'est l'actualité. L'actualité dans cette Église, voilà, il y a des projets qui se mettent en place et nous aimerions en même temps, plutôt que de mettre en place des projets sans qu'il y ait de pédagogie, sans qu'il y ait d'explication, nous avons voulu prendre le temps tout ce mois de février pour pouvoir vous entretenir sur les bienfaits de ce que le Seigneur nous a mis à cœur et nous le disons modestement, pour pouvoir justement proposer à l'Église, pour conduire l'Église dans cela. Et vous avez compris, je parle bien ici des groupes de maisons. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Je crois que c'est la première expérience, même si les chrétiens de cette Église ont toujours eu l'habitude de se retrouver entre eux, hein, sans que cela ne soit officiel ou du moins solennel. Hein, vous savez, quand on parle du haut de l'estrade, il paraît que c'est solennel. Apportez-moi tous vos portefeuilles. Porte-monnaie aussi. Tous les bijoux. Non, c'est pas vrai. Juste pour dire que donc nous sommes là vraiment pour essayer d'emmener l'Église dans ce vers quoi le Seigneur nous conduit de plus en plus. C'est des choses qui ont été longtemps réfléchies avec le conseil spirituel et qui sont mises en place aujourd'hui. Et donc, dans justement cette même lancée, j'aimerais voir avec vous quelque chose de très important. C'est l'Église toujours, mais j'aimerais voir ensemble pour une Église forte et dynamique. Ensemble pour une Église forte et dynamique. Vous savez, lorsque Jésus a été arrêté, qu'il a été crucifié, mis dans le tombeau, tous ses ennemis étaient convaincus que c'en était fini de cette doctrine, c'en était fini de ce Jésus avec ses disciples, et ils ont dû célébrer la victoire, ils ont dû faire la fête, ils ont dû s'exclamer de joie parce que celui qui était venu avec un message déstabilisant pour la religion, déstabilisant pour les traditions, déstabilisant pour toutes les cultures du monde, celui qui amène le message d'amour, un amour immérité, mais est tellement éternel. Eh bien oui, les gens se sont dit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'il nous a fait beau? Il nous a fait beaucoup de tort avec son message pendant 3 ans et demi. Maintenant, ça y est, c'est fini, il est dans le tombeau. On verra encore comment est-ce qu'il va nous parler de son histoire d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est quoi cette histoire? Alors que nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, le troisième jour, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Et quand Jésus va ressusciter, pendant toute la période, après sa résurrection, en attendant de monter au ciel, Luc va nous dire dans le premier chapitre du livre des Actes, que Jésus va passer du temps, à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu avec ses disciples. Parce que le royaume de Dieu avait une place importante dans le cœur de Jésus, et il fallait que Jésus leur dise qu'il était en train de leur laisser un héritage important de la part de Dieu. Et il va s'entretenir principalement que du royaume de Dieu. Et au moment où Jésus va être enlevé pour aller au ciel, les 11 apôtres qui sont là vont retourner à Jérusalem, ils vont trouver les autres disciples, et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, ils vont attendre ensemble ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit, on est dans Acte 1, ils vont se mettre ensemble. La Bible nous dit que aussi bien les hommes, les femmes, tous sont ensemble pour attendre ce que Dieu avait promis, le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, la Bible nous dit que alors que ça faisait 10 jours qu'ils étaient là ensemble, 10 jours qu'ils persévéraient dans la prière, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur les 120 qui étaient réunis ensemble et il va leur donner de parler dans des langues nouvelles, confondant même ceux et celles qui étaient venus, bien évidemment, faire la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et là, ils vont entendre des hommes et des femmes qui parlent dans leur langue maternelle alors qu'ils étaient pour la plupart d'entre eux galiléens. Ils ne comprennent pas. Ils vont dire, ah ben oui, ils sont pleins de vin doux. Bon, là encore, c'est le vin doux. Hein. Ça va, c'est pas du sec, là. Ils sont pleins de vin doux. C'est pour ça qu'ils sont en train de dérailler. Ah ben oui, moi j'aimerais bien, quand je prends un peu de vin doux, parler chinois. Moi j'aimerais bien. Ça serait pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah oui, moi j'aimerais bien y arriver. Ah oui. Alors ils vont dire, mais non, ils sont. Et puis la Pierre va prendre la parole. Il va prendre la parole Et il va expliquer, il va dire, le Jésus que vous avez arrêté, que vous avez crucifié, que vous avez mis dans le tombeau, il est ressuscité. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la conséquence de l'Esprit qu'il nous a envoyé. Et maintenant, nous vous annonçons cet évangile, que c'est Jésus-là qui est monté au ciel, celui que Dieu a envoyé, c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et là, les personnes qui étaient là vont demander aux apôtres, « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Parce que la Bible nous dit que leurs cœurs furent vivement touchés par le message de Pierre. Et là, ils disent, « Hommes, frères, que devions-nous faire ?» Pierre va leur dire, « Repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. » Et dit, « Ensuite, vous allez aussi recevoir ce que vous voyez qui nous anime devant vous, le Saint-Esprit. » Il est pour vous, il est pour vos enfants, il est même pour ceux qui ne sont pas encore parmi nous, au milieu de nous. Et là, quand on voit dans Acte 3, on voit dans Acte 2 déjà, eh bien sûr, il y a 3000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Et ces 3000 personnes, bien évidemment, il faut s'organiser. Les 120 peut-être savaient faire les choses. Et là, les personnes vont s'organiser. Et avec ces 3000 personnes, l'Église va se mettre en marche. Et l'Église se mettant en marche, il va falloir que, comme n'importe quelle structure, il va falloir avoir des piliers, il va falloir avoir des clés sur lesquelles se fonder pour pouvoir, bien évidemment, maintenir la structure et lui permettre de se développer. Et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à l'issue de la prédication de Pierre, où il y a 3000 âmes qui se convertissent, la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Il est bon, frères et sœurs, de regarder, chers amis, ce matin, que ce texte est capital pour l'Église. Ce texte va constituer la base et le fondement de l'Église. Bien sûr que l'Église est fondée sur la personne de Jésus. Il a bien dit, c'est lui qui bâtit son Église. Et il a déclaré que l'Église qu'il bâtit, les ennemis de l'Église ne prévaudront jamais contre elle. Ça, c'est la déclaration que le Fils de Dieu fait. Mais ici, nous voyons que l'Église va se mettre en mouvement, elle va commencer par se structurer. Et pour se structurer, elle a besoin de 6 éléments principaux que j'ai soulignés ici. Souvent, on s'arrête aux prières. Non, mais il y a la crainte. Il y a aussi, bien sûr, le surnaturel de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme la vie du corps. Vous avez remarqué que si vous ne mangez que du gras, ça ne marchera pas, ça n'ira pas. Et si vous mangez que des protéines, ça ne marchera pas non plus. Si vous mangez que des glucides, vous aimez la glace, la crème, vous aimez toutes ces choses, les bonbons, toutes ces choses, ça ne marchera pas non plus. Il va falloir trouver un équilibre. Il faut un peu des trois. Parce qu'on a tous besoin, bien évidemment, de cela. Et en plus de cela, on a besoin des nutriments, on a besoin de choses comme le magnésium, le calcium, tout ce qui passe à la télé. On a besoin de cela. Vous savez aujourd'hui, mais c'est vrai, parce que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est celui de se focaliser sur quelques-uns de ces éléments pour bâtir une église. Aujourd'hui, on trouve des églises qui sont mais championnes dans le social, mais ce n'est pas suffisant. C'est un déséquilibre. L'église ici, on nous montre que l'église qui est forte, c'est une église qui est fondée sur quoi? Sur ces 6 clés. Si on ne s'appuie que sur le social, ou si on ne s'appuie que sur la communion fraternelle, ou si on ne s'appuie que sur les prières, on est déséquilibré. On a besoin de s'appuyer sur les 6 piliers. qui sont soulignées sur le texte que vous avez à l'écran. Parce qu'il est question d'être équilibré. Il est question de savoir ce que nous devons justement recevoir de la part de Dieu pour avancer dans l'Église, dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Et lorsque nous regardons ces six clés que j'ai soulignées, la première clé, c'est l'enseignement. C'est étonnant, vous savez, tous, autant que vous êtes là ce matin, vous êtes le produit de l'enseignement. C'est étonnant. Vous savez, l'enseignement, c'est ce qui vous prend à un niveau A d'ignorance pour vous propulser à un niveau B de connaissance. Moi, je me souviens que quand je suis rentré au CP, j'ai pas fait la maternelle parce que mon père ne voulait pas. Il trouvait que j'étais trop jeune. En fait, la raison, c'est qu'il voulait que je reste avec lui, mais bon. Il ne voulait pas. Il n'a pas voulu que j'aille à la maternelle. J'étais son dernier. Le gars a dit non, c'est bon. C'est pour ça, vous m'excuserez, hein, quelquefois, dans les couleurs, j'y connais pas grand-chose. Je ne suis pas daltonien, mais les couleurs, des fois, je confonds le rose avec le violet, mais bon. C'est pour n'avoir pas fait la maternelle. C'est là-bas qu'on apprend les couleurs, non? Alors. L'enseignement, vous savez, Dieu nous dit dans sa parole que si son peuple est détruit, si son peuple périt, c'est parce qu'il manque de connaissances. Et souvent, quand on lit ce texte, les gens se disent « Ah, c'est la connaissance ». Non, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Non, 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 non. C'est la révélation. Et moi, j'aime bien la version anglaise parce qu'elle dit « Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas ». C'est Dieu qui dit ça. Il dit « En fait, celui qui ne connaît pas Dieu ». C'est pour ça, frères et sœurs. Quand nous sommes dans une situation difficile, pourquoi nous pouvons paniquer? C'est parce que nous n'avons peut-être pas une relation avec Dieu. Si on connaît Dieu, on ne panique pas en réalité. Ou il peut nous arriver de paniquer, mais tout de suite, on se ravise parce qu'on sait qu'il y a notre Dieu qui est fidèle, il est là avec nous. L'enseignement nous éclaire, ce n'est pas juste quelque chose, non. Ce n'est pas juste prendre un bouquin, non. L'enseignement, c'est ce que nous faisons comme ce matin. C'est ce qui se fait en semaine aussi, à l'occasion de plusieurs réunions. Mais il faut s'attacher à cette parole, parce que la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent, hein, ils furent baptisés, et ils faisaient quoi? Ils persévéraient. Ils n'écoutaient pas juste les enseignements. C'est pour ça que Jacques va dire, il faut que vous sachiez une chose, écoutez la parole, c'est le commencement. Mais si vous en restez à écouter, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie. Parce que en fait, ce qui nous change, c'est quoi? C'est la parole expérimentée. Dès lors, frères et sœurs, que vous n'expérimentez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est impossible. Si vous n'avez jamais expérimenté l'amitié de quelqu'un, la confiance, vous ne pouvez pas lui faire confiance. La parole expérimentée, parce que la parole qui reste là, c'est le savoir. C'est comme un ingénieur qui vient de finir ses études. Il a besoin maintenant de transformer ce qu'il a reçu à l'école d'ingénieur maintenant en pratique. C'est ça, l'expérimentation. C'est ça qui nous donne d'aller de l'avant. C'est ça qui nous donne de comprendre les choses de Dieu. Parce qu'elle devient la révélation. C'est la révélation de mes paroles qui éclaire. Elle donne l'intelligence au simple. Parce que la lettre, elle tue. Il n'y a rien. Quand on lit la parole d'abord, c'est bien, c'est le commencement. Mais on a besoin de celui que les autres ont entendu le jour de la Pentecôte, qu'ils ont reçu du moins, le Saint-Esprit pour nous éclairer dans la parole de Dieu. Nous devons recevoir l'enseignement. Parce que l'enseignement est indispensable. Parce que vous savez, sans l'enseignement, sans la révélation, nous sommes ignorants. Je vais raconter l'histoire d'un jeune étudiant. Il était jeune dans son village. Et dans son village, c'était dans un village africain, il était jeune. Et parce qu'il n'avait pas accès à l'eau potable, ils allaient prendre l'eau parfois dans des rivières. Ils buvaient l'eau qu'ils pouvaient justement puiser, soit dans les rivières, soit, je ne sais pas, dans des lacs, des choses comme ça. Et puis, il y a eu une épidémie de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, la bilharziose. Il y a les enfants ce matin, il faut que vous allez regarder sur Google. Donc, dans le village, ils ont dit, ah ben oui, ce sont des esprits qui sont en train de nous empoisonner, ils veulent tous nous tuer. Et puis ce jeune qui était là dans ce village, il avait la même attitude que tout le monde dans le village. Et puis est venu le temps où ce jeune a quitté son village pour aller poursuivre des études. D'abord dans un lycée, puis il est allé s'inscrire dans une fac de médecine. Et là, il a découvert le microscope. Et quand il a découvert le microscope, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, que seul le microscope peut nous faire voir. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il allait prendre un peu d'eau dans son village, ce qu'ils avaient l'habitude de boire. Et il a regardé au microscope. Il a vu qu'il y avait des petites bébêtes dedans, qui étaient à l'origine de la maladie. Et vous savez, en fait, il a compris qu'il fallait que cette eau soit filtrée, que cette eau soit traitée. Et donc, il est retourné dans son village avec un appareil pour traiter l'eau. Les gens lui ont dit, ah non, c'est pas possible. Il n'est pas question de traiter l'eau ici. Ce sont les esprits qui nous en veulent. Ils veulent en finir avec nous. L'ignorance. Même pour convaincre sa propre famille, il a eu du mal, ce jeune étudiant en médecine. À cause de quoi? De l'ignorance. L'ignorance va toujours faire en sorte, parce que nous sommes des êtres humains, l'ignorance va toujours faire en sorte que nous ayons envie, eh bien oui, de croire quelque chose. On a envie de croire quelque chose. Mais Dieu nous dit, ce qui nous éclaire, c'est la révélation des paroles, de ses paroles. Donc l'enseignement est capital. Et là, Luc nous dit, la deuxième chose, c'est la communion fraternelle. Et vous savez que quand les disciples se réunissaient, principalement à Jérusalem, alors qu'ils étaient déjà des milliers, ils ne pouvaient pas exercer la communion fraternelle essentiellement au sein de ce grand groupe. C'était difficile. On a eu l'occasion de le rappeler déjà. Le pasteur Daniel en a parlé récemment. Il est difficile. Non pas, nous nous côtoyons, nous discutons entre nous lorsque nous venons à l'occasion des réunions, que ce soit le week-end ou en semaine, nous pouvons parler. Mais la communion fraternelle, nous savons qu'elle peut encore s'intensifier. Elle peut encore même se densifier lorsque nous sommes dans un groupe beaucoup plus restreint. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les disciples à cette époque avaient compris qu'il fallait rompre par exemple le pain, la fraction du pain et la communion dans les maisons. Parce que c'était plus simple, parce que c'était plus pratique. La communion fraternelle. En général, quand on parle de communion fraternelle, on se dit, ah oui, c'est la gape. Non, frères et sœurs. Non. Non. Si vous regardez l'origine du mot communion, ça veut dire comme un. Devenir un. Quand on parle de communion fraternelle dans la Bible, il est question du corps de Christ. Pour dire que les membres sont tous ensemble et ils avancent ensemble. C'est pour cette raison que la conséquence, par exemple, du fait d'avoir persévéré dans ces six clés, dans ces six piliers, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les disciples ont commencé à s'organiser comment? À mettre tout ensemble. La communion fraternelle. On parle de la fraction du pain, on vient de le faire ce matin. Mais vous imaginez si on était 2000, 3000. Je sais que quand je donne des chiffres comme ceux-là, il y a certains qui sont en train de trembler sur leur chaise en disant « Oula, qu'est-ce qu'il veut nous dire là ?» Nous, on est bien là, c'est sûr qu'on est bien là. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, frères et sœurs, vous savez, un jour, lorsque Pierre et Jean ont été battus, du moins les apôtres, c'était d'ailleurs tous les apôtres, on va le lire d'ailleurs, c'est dans un des textes. Il y a un homme qui avait instruit l'apôtre Paul, appelé Gamaliel. Il a dit, vous savez une chose, il y a eu Teudas, c'était quelqu'un qui était venu, c'était la mode. Il a dit, Teudas est passé, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est Judas, il est venu, il est passé. Il leur a dit à ses amis du Sanhédrin, mais si ces disciples-là sont véritablement avec Dieu, il vaut mieux pas que vous combattiez contre Dieu. C'est une mauvaise chose, ce serait une mauvaise chose de combattre contre Dieu. Frères et sœurs, la croissance de l'Église ce n'est pas quelque chose que nous nous désirons. Non, nous pouvons y adhérer, mais ce n'est pas notre désir. La croissance de l'Église, c'est la volonté de Jésus. C'est ça que nous devons comprendre. Jésus a dit aux disciples qui étaient restés à Jérusalem, vous allez commencer à Jérusalem, vous allez ensuite aller en Judée, vous irez en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi ça? Si c'est pour rester les mêmes 120, il aurait pu leur dire, restez à Jérusalem, vous êtes 120 et puis c'est terminé. Quand je reviendrai, je vous prendrai et on ira dans mon ciel de gloire. Non, parce que la croissance de l'Église, en fait, c'est pas mauvais la croissance. Pourquoi? Pourquoi la croissance? Nous, on voit toujours le nombre, on voit le chiffre, mais pourquoi la croissance? Mais c'est pour que les gens soient sauvés. C'est pas juste pour remplir l'Église. Il faut que les gens soient sauvés. Vous ne voulez pas que les gens de votre famille soient sauvés? Et s'ils sont sauvés, ils iront où? Au marché? Pas ici. Mais on sera nombreux, non? Quelqu'un devait dire amen ce matin. Moi, je ne comprends pas nos raisonnements parfois. Si les gens de nos familles sont sauvés, où iront-ils? Oui, mais avant d'aller au ciel, il faut quand même être sur la terre. Hein. C'est bien d'aller au ciel. Hein, mais bon. Ça veut dire que nous, ce matin, on n'est pas sauvés, quoi. Parce qu'on est là. Ma sœur, écoute d'abord ce que je dis. C'est ça la croissance. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie que l'Église soit remplie, qu'il y ait un local beaucoup plus grand. Non, c'est parce que, eh bien oui, dans l'ADN de l'Église, Jésus a déjà programmé la croissance, la multiplication. Imaginez-vous, autant de familles que nous sommes là ce matin, si seulement un seul membre de chacune de nos familles réunis ce matin se convertissait, est-ce que vous croyez que de dimanche prochain, on aurait tous assez de place pour s'asseoir en ce lieu? Alors, est-ce qu'on doit refuser ça au prix de notre, peut-être, de nos habitudes? C'est bien, on peut rester là. Mais si c'est pour empêcher que les autres soient sauvés, là, Jésus me dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je suis venu sur la terre, c'est pour que les gens soient sauvés. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Nous partageons le pain, il y a les prières. La Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. La crainte s'emparait de chacun. La crainte. Ce n'est pas la peur, hein, c'est la crainte. Souvent, on s'arrête aux prières, comme je disais en introduction. Mais là, il est question de crainte. Comment des gens qui persévèrent dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, pourquoi cette crainte? Je vais vous dire une chose capitale ce matin, frères et sœurs. Dès lors qu'on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas craindre Dieu. Les enseignements ont fait découvrir à ces hommes et à ces femmes qui venaient d'horizons différents. Ils les ont fait découvrir Dieu. Ils ont découvert qui est Dieu dans toute sa splendeur. Ils l'ont découvert. Et parce qu'ils ont découvert qui est Dieu, à partir de ce moment-là, ils ont compris que parce qu'ils ont le même Dieu, mais il faut qu'il y ait la communion entre eux. C'est tout simple, hein? C'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait la communion, en plus qu'ils ont le même Dieu. Il faut qu'ils partagent, il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'ils se soutiennent les uns les autres. Il faut qu'ils se supportent aussi les uns les autres. C'est important, frères et sœurs. Moi, je suis surpris. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on lui a fait une remarque. Mais pourquoi, frères et sœurs? Dans quelle famille vous avez déjà vu les gens qui ne se frictionnent pas? Vous avez vu ça où? Ils ont compris qui est Dieu à travers les enseignements. C'est pour ça qu'il y avait une crainte révérentielle. Ce n'était pas une peur, mais une crainte révérentielle. Parce que quand on connaît Dieu, on craint Dieu. On n'a pas peur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est le commencement de la sagesse. Ça, je vais prendre un exemple. Si vous allez dans mon pays, vous allez prendre un pygmée qui est dans la forêt. vous lui parlez de la bombe atomique, même s'il voit l'homme le plus puissant de la Terre qui peut envoyer une bombe atomique, il n'a rien à faire. Parce qu'il ne connaît pas ça. Il ne le connaît pas. Il va même le mépriser. Il va lui dire, mais toi, tu es qui? Non. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais s'il savait que cet homme était capable d'envoyer ne serait-ce qu'une seule bombe qui va raser tous les habitats des pygmées dans la forêt, il se méfierait. C'est ça, la connaissance. C'est pour ça que Dieu dit, si mon peuple ne me connaît pas, il périt. Si mon peuple ne me connaît pas, il souffre. Si mon peuple ne me connaît pas, il divague. Il fait tout et n'importe quoi. Quand tu connais Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne fais plus les choses n'importe comment. Ce n'est pas possible. Quand on connaît Dieu, on ne fait plus les choses n'importe comment. On tient compte de la personne de Dieu. On fait attention à Dieu. On ne prend plus de décisions qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce qu'on est un enfant de Dieu. Il peut nous arriver de faiblir. Ce n'est pas de cela que je parle. Parce que Dieu nous a toujours laissé une fenêtre à travers son Fils. Parce que nous sommes encore dans un corps faible. Il peut nous arriver de tomber, de chuter. Mais Dieu dit chuter. Il ne dit pas de pratiquer. C'est pour ça que la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut pécher, il peut tomber. Et il a une fenêtre parce que de tout son cœur, de toute son âme, il va se repentir devant son Dieu. Et comme il est fidèle et juste, il va lui pardonner. Il va même purifier ses iniquités. Mais quand la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que ce qu'on fait est mauvais et on fait de ça un mode de vie. Dieu dit non, mon enfant, tu es en train de profaner mon nom auprès de tous ceux et toutes celles qui t'entourent. Frères et sœurs, nous devons faire attention, avoir la crainte de Dieu. Et nous voyons que, à cause, ou du moins grâce à cette crainte qui se dégageait parmi les premiers disciples, il y avait quoi? Il y avait une atmosphère agréable au Saint-Esprit. Le surnaturel de Dieu était manifesté. Si on néglige la sanctification, si on néglige la sainteté de Dieu, ils nous auront du mal à voir le surnaturel de Dieu se manifester. Dieu est un Dieu saint. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de culpabiliser quelqu'un. Non, je dis simplement, si tu es dans une situation qui n'est pas agréable à Dieu, il y a une fenêtre pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de justice et de jugement. Mais il y a une fenêtre pour toi. Ça veut dire que ce matin même, tu es capable de te repentir devant ton Père. Et il va te pardonner. Il va t'absoudre, il va te pardonner parce qu'il est fidèle. Mais seulement, nous devons marcher comme des hommes et des femmes, nés de nouveau, en nouveauté de vie. Frères et sœurs, nous devons marcher de cette manière-là. Nous ne devons pas négliger. Si nous profanons les choses de Dieu, notre évangile sera caduque auprès de ceux et celles qui nous entourent. Personne ne peut croire notre Dieu si, quand les gens voient nos vies, ils disent non, je n'ai pas envie de ressembler à Ulrich. Hein. Eh bien oui, les gens ne sont pas dupes. Hein. Ils ne sont pas dupes, les gens. Ces choses sont importantes. Je vais, dans la deuxième partie, insister plus sur le surnaturel de Dieu. Une église forte, c'est une église qui est fondée sur ces six clés que nous venons de lire. Mais une église forte, c'est aussi une église qui sait faire face à l'adversité. Dans l'unité. Qui sait faire face à l'adversité dans l'unité. Dans l'unité, frères et sœurs. Vous allez remarquer qu'à chaque fois dans le livre des Actes, surtout au début de l'organisation de l'Église, il est toujours marqué d'un commun accord. Ensemble, ils sont d'accord. Ils sont d'accord, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'accord, c'est quelque chose qui fait que Dieu soit heureux de se manifester. Quand il dit là, lisez bien Matthieu 18, vous allez voir, quand il dit là où deux ou trois sont, voilà. Mais ça, oui, ça, voilà, c'est le même mot qui est utilisé que dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un mot que j'ai eu l'occasion de vous dire en début de l'année 2017, c'est « homotumadon ». C'est un mot grec, hein, bizarre. C'est-à-dire passionné de la même chose. Des cœurs brûlent pour la même chose. Nous devons faire face à l'adversité. Et au chapitre 5 du livre des Actes, voici, nous a encore parlé justement de ces signes miraculeux. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord, encore, d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. L'Église devient de plus en plus forte. De plus en plus forte. Quand on dit « l'union fait la force », ça sous-entend quoi, l'union là? Est-ce que quand on est seul, on peut faire l'union? Quand on dit « l'union fait la force », ça sous-entend que quand on est nombreux et unis, nous sommes forts ensemble, oui ou non? L'Église devenait de plus en plus forte. Elle était de plus en plus solide. Fondée, bien sûr. Bien sûr, les six clés dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont toutes, mais bien sûr, enrobées dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour agapé, pas l'amour sentimental. Le pasteur Daniel en a parlé la semaine dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'amour de Dieu qui ne soupçonne rien. L'amour de Dieu qui n'accuse pas, l'amour de Dieu qui ne voit pas le mal, l'amour de Dieu, cet amour pur, cet amour éternel. Là, on lit qu'il y a beaucoup de signes miraculeux et des prodiges qui se font au milieu du peuple. Mais il faut savoir qu'avant cet épisode, il y a quelque chose qui est arrivé comme une tache d'huile dans la vie de l'Église. Un couple appelé Saphira et Ananias. Et j'aime mieux vous dire tout de suite que les plus grands commentateurs de la Bible se cassent la tête avec ça. Personne ne peut comprendre. Parce qu'ils se disent, mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce que Dieu a agi de cette manière? Ananias et Saphira ont menti, certes, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tombés morts, raides morts? Mais moi, j'aimerais juste souligner, pas commenter ce texte, parce que je vous avoue que moi aussi, ça me donne des migraines par derrière. Mais juste souligner quelque chose. Je suis allé regarder parce que la Bible nous dit que finalement, il va y avoir quoi? Il va y avoir en fait la crainte qui va se dégager au milieu des disciples quand l'épisode d'Ananias et Saphira va arriver. Il y a la crainte. Après la mort d'Ananias et Saphira, ils vont être dans la crainte. Et je suis allé regarder le mot crainte qui est là, le mot grec. Et celui qui est utilisé, vous voyez dans le premier texte qu'on a lu, acte 2, où on dit la crainte s'emparait de chacun. C'est le même mot, phobos, en grec. C'est-à-dire une crainte révérentielle. Et donc je me suis dit, mais en fait, la crainte qu'ils ont eue là, par rapport à ce qui s'est passé de la mort d'Ananias et de Saphira, on pourrait penser, on pourrait croire que les gens ont eu peur, que les chrétiens, les disciples ont eu peur de Dieu. Mais non, en fait, c'est une crainte révérentielle encore là qui s'est dégagée de ce peuple. C'est la même chose que dans Acte 2 que nous avons lu, le premier texte, où il nous est dit la crainte s'emparait de chacun. C'est le même mot, phobos. Et en grec, pour traduire la peur, les mots ont la même racine, mais c'est phoboé, pour traduire la peur. Alors que ici c'est le même mot qui est utilisé, phobos, pour dire une crainte révérentielle. Donc on voit là que cet épisode, malgré l'épisode de Ananias et Saphira, on voit quand même au verset 12 qu'il y a toujours des signes miraculeux. Il y a le Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre à travers les apôtres. Et le nombre des croyants ne cessait d'augmenter, hommes et femmes. Et regardez la suite de ce qui est dit. On en venait à sortir les malades dans les rues et les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. C'est bizarre, hein? Nous qui sommes au 21e siècle, on se dit, oulala, ça ce sont les choses des temps anciens, comme on aime bien le dire. Il disait, pourquoi les gens agissaient de cette manière? Est-ce que c'est parce que l'ombre de Pierre guérissait les gens? Non! C'est parce qu'ils se disaient que si cet homme-là, c'est véritablement un homme de Dieu, nous n'avons pas forcément besoin de l'approcher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Vous vous rappelez l'histoire de la femme à la perte de sang qui va dire, « J'ai même pas besoin que Jésus me touche, mais si je peux seulement accéder au bord de son vêtement, je serai guéri. » Il y a un peu peut-être, vous allez dire, « Mais il y a de la superstition. » Non. Parce que nous savons aussi que plus tard, avec l'apôtre Paul, il y a des gens qui avaient leurs malades qui ne pouvaient pas les déplacer. Ils venaient, ils appliquaient les mouchoirs sur Paul comme ça. Et ils allaient, ils les posaient sur les membres de leur famille qui étaient malades et les malades étaient guéris. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui est décédé. Et ses ossements ont fait quoi? Ont ressuscité quelqu'un qui venait d'être enterré. Alléluia! Amen. Eh oui, frère, ce Dieu n'est pas limité. Ne mettons pas Dieu dans une bouteille. Non! Dieu fait comme il a envie. Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem, parce que c'est là qu'ils étaient. C'était la base. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le surnaturel de Dieu est manifesté. Pourquoi? Parce que cette église forte va maintenant entrer en mouvement. Elle va devenir une église dynamique. Vous savez que la dynamique, c'est le mouvement. Cette église forte qui se fonde, bien évidemment, sur les six clés que nous avons vues, enrobés tous par l'amour de Dieu, cette église forte va devenir dynamique. Une église qui avance, malgré l'adversité, elle va avancer. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas regarder aux circonstances. Non, elle va regarder à celui qui l'a bâti, à celui qui l'a appelé, à celui qui donne toutes choses et qui fait toutes choses en tous. Cette église dynamique, elle s'appuie donc sur cette force. Et vous savez que quand on n'a pas de force dans ses membres ou dans un de ses membres, mais ce membre, il manque de quoi? De dynamisme, oui ou non? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On a besoin de la vigueur, on a besoin de la force pour être dynamique. Il en est de même au niveau spirituel. Une église dynamique. Une église qui va de l'avant, une église qui évolue au milieu du surnaturel de Dieu. C'est ce que nous avons lu. L'église était dans le surnaturel. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, Satan est arrivé à persuader l'église même que le surnaturel, c'est mauvais. Il est arrivé à cela, que le surnaturel, c'est mauvais. Vous savez, il y a même des grands théologiens qui disent, qui déclarent, ils disent, mais non, les miracles, c'était pour l'époque des apôtres. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'époque des apôtres. Toutes ces choses surnaturelles, c'était pour les apôtres. Alors, si eux ont eu ça, et ils ont eu besoin de ça pour l'Église, alors que nous sommes encore l'Église aujourd'hui, si on n'a pas ça, comment on fait? Frère, est-ce que vous croyez que nous pouvons convaincre les gens seulement avec nos beaux discours? Ça ne marche pas. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, nous n'allons pas pouvoir convaincre les gens. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. Ce n'est pas nous, c'est lui. Donc nous avons besoin de nager dans le surnaturel de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser Satan nous faire croire que ce que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal. Ah non, nous devons, frères et sœurs, au contraire, aspirer au surnaturel de Dieu. Il est bon de voir les miracles, oui ou non? Mais le miracle, c'est quoi? C'est surnaturel. Mais les guérisons de Dieu, elles sont quoi? Surnaturelles. Les délivrances, elles sont surnaturelles. Les restaurations, elles sont surnaturelles. Si on ne voit pas ça, et mes frères et sœurs, nous allons devenir religieux. Parce que la caractéristique de l'Église de Christ, c'est qu'elle est une Église qui vit dans le surnaturel de Dieu. Parce qu'il est question de deux royaumes qui s'affrontent. Jésus a dit qu'il bâtit son Église, mais il sait que l'Église qu'il bâtit a un adversaire. Mais il dit que cet adversaire n'aura jamais le dessus sur son Église. Mais comment l'adversaire n'aurait pas le dessus sur son Église? Est-ce que l'adversaire est visible à nos yeux? Non! Alors on a besoin de celui qui manifeste le surnaturel de Dieu. On a besoin de celui qui guérit sans toucher, qui guérit sans dire quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il connaît l'être humain qu'il a créé, il peut faire des choses extraordinaires. C'est cela, frères et sœurs. Devons nous appuyer sur cette parole. Il y avait des miracles, mais vous savez, quand il y a le surnaturel de Dieu, quelquefois il nous arrive des choses que nous n'aimons pas. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas. On veut être tranquille en fait. On dit non, nous on est bien là. Ulrich, arrête avec tes histoires. parce que nous on est bien. Voilà, nous on n'a pas besoin de ça. De temps en temps, on va prier Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai une douleur là. Aide-moi, Seigneur. Ah, celle-ci, elle est partie, mais il y en a une autre de ce côté maintenant. Seigneur, fais quelque chose encore. Ah, mais là encore, je viens de me rendre compte que le dos aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Oh, je ne suis pas en train de me moquer, frères et sœurs. Mais je dis seulement que si nous refusons l'héritage que Dieu nous donne, eh bien, nous n'allons pas en bénéficier. Si nous refusons volontairement l'héritage, ça fait partie de notre héritage. Eh oui. Et vous savez, tous ces miracles qui se passaient parmi le peuple, mais ils vont engendrer quoi? Mais de la jalousie, c'est ce que nous allons lire maintenant au verset 17. Parce qu'il faisait des miracles, alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Eh oui! Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et on la suite, mais regardez ce qui va se passer. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la. Les filles sortirent et leur dit, regardons ensemble, prêtons attention à ce que l'ange va leur dire de la part de Dieu. L'ange va leur dire, allez-y, tenez-vous où? Et faites quoi? Annoncez quoi? Toutes les paroles de la vie? Donc pour le salut, oui ou non? Tu veux le surnaturel de Dieu? Sois quelqu'un qui annonce le salut, l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Beaucoup n'aiment pas ça. Quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent, ah oui, les gens sont méchants. Je dis, mais mon ami, Jésus a dit que les gens ont été méchants avec lui. Combien à plus forte raison avec nous le seront-ils? Pourquoi vous avez peur? Si vous dites à quelqu'un, Jésus vous aime, s'il vous insulte, mais vous rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. Mais le jour où cette personne paraîtra devant Dieu, Dieu lui dira, ben écoute, il y a un de mes enfants qui t'avait dit, 5 rues de Bretagne, je ne sais pas quelle autre rue, que je t'aimais. Et comment tu avais réagi? Ah ben moi, je ne savais pas que c'était sérieux. Ah ben. Eh oui. Non, mais c'est ça. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous sommes là pour être les messagers de l'amour, les messagers du salut de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là. Celui qui convertit, c'est le Saint-Esprit, celui qui a la puissance pour incliner les cœurs. Nous sommes là, nous devons témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de cette justice de Dieu. Donc ils vont les mettre en prison, mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va aller ouvrir la prison, il va envoyer un ange. L'ange va leur dire, retournez au temple et allez-y annoncer au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Et vous vous imaginez un peu, quand ils les envoient chercher à la prison, eh bien, ils ne vont pas les trouver, hein, vu qu'ils étaient déjà sortis. Je vous ai épargné, hein, cette longue lecture. Ben oui, ils sont sortis. Et donc, les émissaires, ils vont revenir, ils vont dire, ben non, mais la prison... Il n'y a personne. Ils sont tous sortis. Et il y a quelqu'un qui va les retrouver au temple et qui va tout de suite aller voir le Sanhédrin pour dire, écoutez, mais les gens que vous cherchez, en fait, ils sont au temple en train d'enseigner la même chose que vous leur avez demandé de ne plus jamais enseigner. Ils sont têtus. Ce sont des vermines, ces gens. Ils sont bizarres. Ils n'écoutent pas. On a beau les frapper, on a beau les fouetter, ils ne nous écoutent pas. Donc ils vont les ramener, bien évidemment, du temple, devant le Sanhédrin. Et là, on poursuit la lecture. Donc après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, le grand prêtre les interrogeant en disant, « Nous vous avons formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Alléluia! Vous avez rempli Jérusalem. C'était des hommes comme vous et moi. Alléluia, quand l'Église est forte, quand elle est dynamique, elle est respectée par la société. Elle est respectée, frères et sœurs. Je peux vous dire, je connais, j'ai rencontré des gens qui dans leur pays, c'est des pasteurs influents. Les présidents de la République les appellent pour les consulter. Demandez à Yongi Cho, frères et sœurs, quand l'Église est forte et dynamique, les gens les respectent. La société les respecte. Ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement. Non sans difficulté, non sans obstacle, mais ils ont rempli. Parce qu'ils étaient animés par cet esprit. Ils ont gagné le respect du peuple. Et oui, ils disent, mais oui, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous savez de quel homme on parle là? On parle de l'homme de l'acte 3. Celui que Pierre et Jean ont relevé au temple, à la porte dite la Belle. Cet homme qui faisait la manche au temple de Jérusalem, qui a été miraculeusement guéri par Dieu à travers le ministère de Pierre et Jean, alors qu'ils allaient à la prière de 15 heures. C'est de cet homme, parce qu'ils avaient été arrêtés à cause de lui. Ils avaient été arrêtés une première fois et ils les avaient interdits de ne plus jamais annoncer quoi que ce soit au nom de Jésus. Mais vous savez, quand on va les interroger pour dire, mais à quel nom ou par quel pouvoir vous avez fait ce que vous avez fait, Pierre va prendre la parole et il va dire, mais c'est par le nom de ce Jésus. C'est lui qui sauve, c'est le nom qui délivre. C'est le nom qui restaure, alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié, frères et sœurs. Que son nom soit magnifié. Frères et sœurs, je suis un fou de l'évangile. J'aime l'évangile. J'aime la parole de Dieu. Et j'aime voir les gens être sauvés. J'aime voir les gens être sauvés. Même si je dois perdre ma place, même si je dois rester debout à tous les cultes, je la donnerai à quelqu'un qui va accepter Jésus. Alléluia. Parce que ça réjouit le cœur du Père. Parce que quand il y a une âme qui se tourne vers Dieu sur la terre, tout le ciel est en émoi, tout le ciel fait la fête, et Dieu est content, Dieu se réjouit, parce qu'il aime sauver, il aime secourir, alléluia. Frères et sœurs, moi je suis prêt à faire le sacrifice, même si je dois m'asseoir par terre, pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent. Oh, je bénis Dieu, je veux que cela arrive. Parce que nous voulons que les gens soient sauvés. Nous voulons que dans nos familles, nos enfants retournent à Dieu. Nos enfants reviennent à Dieu. Ils ne sont pas mauvais, prions pour eux. Arrêtons de dire les choses sur les enfants. Arrêtons. 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 Je sais que l'Église est spécialiste en la matière. Quand je dis l'Église, ce n'est pas vous seulement, les chrétiens en général. Dès qu'on voit une situation, on commence par donner son avis, son opinion. Arrêtons. Arrêtons, frères et sœurs. La Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. S'il y a un enfant qui a été dans cette église, qui a entendu la parole de Dieu à l'école du dimanche, il reviendra au nom de Jésus. Amen. Il reviendra parce qu'il y a un feu qui brûle dans son cœur. Il y a un feu qui brûle dans son cœur, frères et sœurs. Prions seulement pour que leur ange soit à côté d'eux. Ne croyez pas où qu'ils soient, leur ange est avec eux, frères et sœurs, parce que Dieu est fidèle. Arrêtons de dire non, c'est fini, c'est pas non. Non, frères et sœurs. Parce que nous avons un Jésus qui est tout puissant. Et c'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Vous savez, en général, quand on est battu, on n'est pas joyeux. On n'est pas joyeux quand on est battu. Mais regardez ce que les disciples vont vivre, comment ils vont réagir. Parce que vous savez quoi? Le Sanhédrin, quand ils vont les avoir à nouveau, ils vont les fouetter. Ils vont les fouetter. Ils vont les laisser partir avec toujours la même menace, la même intimidation. Comme quoi, n'allez plus jamais annoncer l'évangile. On n'en veut plus et on n'en peut plus. Et regardez maintenant au verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Donc je vous ai parlé de Gamaliel en fait, qui avait convaincu le Sanhédrin qu'il vaut mieux les laisser s'ils sont avec Dieu, vous ne pouvez pas les arrêter. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux. Oh là 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 là. Ah, j'ai honte pour moi, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous. Là, j'ai honte. Je me demande, est-ce que moi je suis en train de vivre le christianisme en 2018 à Angers, c'est incroyable. Je me dis, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Les gars, ils sont joyeux. On vient de les fouetter. Hein. On ne les a pas battus avec des petits morceaux de bois. Non, c'est des fouets. Et ils sont là joyeux. D'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Jésus lui-même avait déclaré, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom et de ma parole. Ils disent, ah Jésus, tu nous as dit ça, on est joyeux. Même si ça fait mal dans le dos, mais on est joyeux. Et regardez, Et chaque jour, la conséquence est, et chaque jour, ils étaient tellement joyeux, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Dans le temple et dans les maisons. Dans le temple, dans la maison, comme je l'ai déjà dit peut-être il y a 2 semaines, c'est que dans la maison, on peut prendre un peu plus de temps. Là, je regarde vos visages, je vois que vous commencez à fatiguer. Non, mais c'est vrai. Vous commencez à fatiguer. Et mais quand on est dans le groupe de maison, par exemple, eh bien oui, on peut aller un peu plus en profondeur. C'est pour cela que les leaders ont été formés pour pouvoir justement vous permettre de pouvoir approfondir peut-être votre connaissance de quelque chose. Là, en parlant maintenant, s'il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas comprise, ben vous n'allez pas pouvoir, peut-être certains vont venir à la fin pour me le demander, mais tout le monde ne pourra pas vous venir. Et vous savez, quand on n'a pas des explications, ensuite, c'est qu'on fait. On se met quoi en tête une opinion. C'est comme ça. On dit, ben oui, mais moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Frères et sœurs, je vais conclure rapidement avec une image. C'est pas moi. Ce ne sera pas moi non plus. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Bible de Daniel, vous savez que quand Daniel est déporté à Babylone, le roi Nebuchadnezzar va avoir un rêve, une vision. Et dans la vision, il va voir tout ce qui est décrit ici, que je ne vais pas vous lire. Il va voir ces choses. Ce sont des royaumes que Nebuchadnezzar va voir. Daniel va lui donner l'explication. Il va dire, ce sont les royaumes. Et il va lui dire, mais à la fin de ta vision, il y a quelque chose que tu as vu, roi. C'est qu'il y a une petite pierre qui descendait d'une montagne et qui est venue fouler la statue, qui a mis la statuette par terre. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, aux sadducéens, aux hommes religieux de son époque, lorsqu'il était physiquement sur la terre, il dit, vous attendez le Messie et vous ne savez pas sonder les Écritures. Daniel nous a dit à quel moment Jésus allait venir. C'est clair, c'est biblique, hein? Mais pourtant, il nous a dit à quel moment. La petite pierre, nous allons voir maintenant dans le texte qui suit, ce que Pierre va dire. Justement, lorsqu'ils vont être devant le Sanhédrin, ils vont être interrogés. Voici Pierre dans son discours, il va dire, « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Et quand on revient, Marido, s'il te plaît, à l'image, regardez ce qui est marqué. Il est marqué quoi? Il est marqué qu'à l'époque de ces rois, c'est Daniel qui dit ça à Nebuchadnezzar, qui lui explique la vision qu'il a eue. Il dit, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia! Qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas être dominé entre autres. Il ne peut pas, c'est impossible. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieur et qui a pulvérisé le fer. Voyez le fer, c'est le dernier royaume, l'Empire romain. Autrement, il est en train de dire quoi? Il dit que Jésus va être manifesté au moment de l'Empire romain. La Bible, hein? Daniel nous le dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai. Et son explication est digne de confiance. Le royaume de Christ est inébranlable. La puissance de Christ est inébranlable, frères et sœurs. J'aurais tellement à dire encore, mais je crois que la sagesse des projecteurs m'invite à m'arrêter là. Parce que je commence par souffrir. Frères et sœurs, levons-nous ensemble et prions le Seigneur. Seigneur, merci.